Alors, comme on vient de le voir, hein, on va pouvoir travailler à temps constant sur un volume de données beaucoup plus important. C'est ça la loi de Gustafsson. Alors maintenant, on a vu que on faisait des opérations atomiques avec la méthode add de la classe interlocked. Mais il est vrai que on ne pouvait ajouter que des entiers ou des longues et faire des opérations que d'addition ou d'incrémentation. Et si je veux travailler sur des collections d'objets, et si je veux travailler sur des doubles, ou même si tout simplement je voulais travailler sur une multiplication, il n'existe pas d'opération atomique à ce niveau-là. Et bien on va tout simplement utiliser la notion d'agrégation, c'est-à-dire pouvoir un instant T de façon unitaire sur chaque processeur, travailler sur un volume de données complètement séparé et en fin d'algorithmie, agréger les données. Et ben c'est ce qu'on va voir par code tout de suite. Bien, alors pour voir la notion d'agrégation, on va tout d'abord créer un nombre assez important d'aliens à l'écran. Donc ensuite, on va ensuite créer ces aliens et puis on va collecter les données. Alors dans un premier temps, toujours sur une boucle séquentielle parce qu'elle va nous servir d'étalon. Donc vous voyez que ce que je vais faire, c'est tout simplement de doubler le carré de 42 par la multiplication. Et ensuite, on va encore une fois mesurer le degré de parallélisme, donc en bouclant sur le nombre d'aliens. On va collecter les données. Et puis, on va utiliser une méthode surchargée de la méthode for qui va nous permettre, vous allez le voir, de pouvoir passer en paramètres une lambda expression qui va nous permettre de calculer un résultat partiel. Donc là, je passe mon option. Ensuite, je vais tout simplement lui passer une méthode d'initialisation qui va me retourner 0. Donc, j'ai besoin de rien initialiser. Et ensuite, je vais lui passer une lambda expression qui va prendre en paramètre l'itération courante, qui va prendre en paramètre l'état de la boucle, qui va prendre en paramètre un résultat partiel que je vais retourner tout compte fait à l'aplomb. Donc là, encore une fois, ça c'est du code de plomberie pour éviter que les petits aliens se marchent dessus. Et ensuite, vous allez voir que je vais calculer mon résultat partiel en effectuant ma multiplication. Mais comme je suis là à ce moment-là sur chaque processeur, donc je suis dans un espace de stockage propre à la tâche, je n'ai pas besoin de protéger en fait mon résultat partiel. Un petit peu de code de plomberie, encore une fois, et je déplace mon alien et je retourne le résultat partiel. Donc ça en fait je le retourne parce que à chaque tour de boucle, je vais calculer naturellement et agréger chaque résultat partiel de chaque tâche. Donc pour pouvoir le calculer, il me faut une méthode sous forme d'expression lambda qui sera la méthode finale qui sera exécutée une fois que les boucles seront tout compte fait finies. Néanmoins, ce résultat final, puisque c'est une lambda expression qui sera exécutée sur plusieurs processeurs, elle est susceptible d'apporter une race condition ou une course critique. Donc il faut que je protège la mémoire à un instant T. Et donc là, oui, c'est effectif, il faut utiliser un verrou. Mais vous verrez que ce verrou n'est pas un problème pour pour les performances. Donc je verrouille ma mémoire et je fais le total. Et finalement, je déverrouille la mémoire. Ensuite, je redessine mes aliens, je retourne en fait la valeur totale. Là, une petite étiquette pour vérifier où on est. Et c'est fini. Maintenant, si j'exécute ce bout de code, mes aliens vont démarrer. Et ce qu'on va voir ici apparaître, donc là c'est un max degré de parallèle. Il devrait s'arrêter. Voilà qui est fait. Donc 882 000. Donc c'est la bonne valeur. C'est exactement la même valeur, donc pour un degré de parallélisme à 1. Et là, après, ben, ça se finit plus rapidement, bien évidemment, et je m'aperçois que mon algorithme 1, en fonction du max degré de parallélisme, va de plus en plus vite et va stagner à un instant T, mais que la valeur est toujours, toujours, toujours la même, et donc que ma méthode for fonctionne correctement. Alors pour résumer ce qu'on vient de voir, la méthode for possède pas mal de surcharges qui permettent justement de personnaliser le plus finement possible notre algorithme. Entre autres pour faire de l'agrégation, on voit qu'ici je vais avoir sur chaque processeur cette lambda expression qui sera exécutée. Donc chaque processeur et chaque tâche en fait possédant leur propre espace de stockage. Ici, je n'ai pas besoin de protéger la mémoire. Donc le double du carré de 42 sera fait à chaque itération, mais de façon séquentielle. Par contre, une fois que toutes les itérations sont finies, je vais avoir une autre lambda expression qui, elle, va être exécutée. Et comme je ne sais pas si elle ne va pas être exécutée simultanément sur chaque processeur, il faut que je protège par un verrou ma zone mémoire qui fera en fait le calcul du total. Donc là, hyper important d'utiliser à bon escient ce verrou. Alors pour continuer dans le point de vue en fait de mesurer, 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 mesurer toujours les performances, on sait que la TPL, Task Parallel Library va pouvoir partitionner nos itérations sur une boucle de façon automatique. Mais qui mieux que nous connaissons en fait notre algorithme? Il est peut-être pensable d'aider la TPL en partitionnant soi-même en fait les itérations pour notre algorithme pour qu'il soit le plus performant possible. Et ça, c'est qu'en mesurant et qu'en utilisant des partitions particulières, comme on va le voir, qu'on va pouvoir savoir si effectivement on peut être meilleur que la TPL en elle-même. Alors, pour illustrer le partitionnement, on va créer pas mal d'aliens à l'écran, donc on va réduire leur taille. Ensuite, on va définir donc une constante de 20 aliens et on va définir un degré de parallélisme au nombre de processeurs que j'ai sur ma configuration. Ensuite, on va créer mes aliens comme d'habitude et puis on va collecter ma première boucle séquentielle qui nous sert comme d'habitude d'étalon pour vérifier 1 que le résultat est correct et 2 son temps d'exécution. Ensuite, on va également collecter on va collecter les données d'une boucle parallèle avec un partitionnement automatique de la part de la TPL pour pouvoir mesurer la différence entre des partitionnements manuels et celle que et celui que la TPL fait. Donc pareil, je crée ma boucle. Donc avec un résultat partiel et un résultat que je vais donc agréger. Donc ça, vous avez l'habitude, on l'a déjà vu dans les précédentes vidéos. Voilà qui est fait. Donc une petite étiquette pour savoir où j'en suis. Voilà. Et ensuite, je vais créer petit à petit dans une boucle un nombre de partitionnements que je vais mesurer. Donc je vais mesurer la différence de tous les partitionnements. Donc pour ce faire, je vais utiliser un objet qu'on appelle orderable partitioner en lui passant un tuple d'entiers, donc deux entiers qui correspondront à la bonne supérieure et à la bonne inférieure de mon partitionnement. Ensuite, de la même manière, je vais créer en fait avec la méthode create de la classe partitionneur mon partitionnement en lui passant la taille du partitionnement que je veux. Et puis un degré de parallélisme qui correspond à mon nombre de processeurs. Derrière, je vais utiliser la méthode cette fois-ci forEach pour pouvoir lui passer en paramètre. En premier paramètre, ça sera donc la partition. Et ensuite, dans une expression lambda qui va me faire donc mon résultat partiel, je vais lui passer ici, vous voyez, la variable range qui correspond à mon tuple, qui contiendra en fait la partition que je vais pouvoir parcourir avec une boucle séquentielle à l'intérieur de ma boucle parallèle. Pourquoi une boucle séquentielle? Parce que ici, l'exécution de cette portion de boucle se fera sur un seul processeur. Donc, je crée mon résultat partiel et puis je déplace mon alien, je retourne mon résultat partiel et j'agrège mon résultat partiel que je protège avec un verrou en mémoire. Ensuite, je retourne en fait la valeur du résultat et puis une étiquette pour vérifier où j'en suis. Donc avec le max degré de parallélisme et le partitionnement, voilà qui est fait. Donc une fois que tout ça c'est fait, je vais pouvoir maintenant exécuter mon programme. Donc ma première boucle démarre, donc c'est ma boucle étalon séquentielle. Donc elle va mettre un certain temps. Ensuite, je vais ma deuxième boucle étalon parallèle avec le partitionnement de la TPL. Voilà qui est fait. Et mes partitionnements à moi. Et on voit que bah, ça, en fonction du partitionnement, ça va plus ou moins vite. Donc on va les laisser s'exécuter. On va analyser un peu tout ça. Donc voilà qui est fait. Et on regarde ici donc un max degré de parallélisme à 8. Par défaut, je suis à 643 millisecondes et on s'aperçoit que si je diminue le partitionnement, ben un partitionnement de 2 est pas mal puisque je suis pratiquement à 200 millisecondes de moins qu'avec le partitionnement de la TPL et mon résultat est toujours de 705 600, donc j'ai toujours le bon résultat. On s'aperçoit que en augmentant le partitionnement, bon, j'augmente aussi comment dire, le temps d'exécution. Donc là, on peut en conclure que dans cet algorithme particulier, avec un partitionnement donc à 2, donc chaque tour de boucle, ça sera entre 0 et 1, ben je m'aperçois que je gagne en performance. Donc vous voyez, hein, il est important de pouvoir mesurer ces algorithmes et de personnaliser la boucle for ou la boucle for each pour trouver le meilleur compromis. Alors pour résumer ce qu'on vient de voir, pour pouvoir partitionner correctement une boucle, on va utiliser un objet qui s'appelle orderable partitionneur avec un type tuple qui va prendre le début de la boucle et la fin de la boucle en tant qu'entier. Ensuite, on va créer une partition à l'aide de la méthode create de la classe partitionneur en lui passant naturellement les bornes de ma boucle et ainsi que la taille de la partition que l'on souhaite. À vous là de trouver le bon compromis dans votre algorithme. Et puis, on va tout simplement passer une lambda expression avec un type de type tuple qui prendra en fait en paramètre la partition qu'on a définie. Et puis derrière, on va parcourir dans une boucle séquentielle dans cette lambda expression l'item 1 et l'item 2 et calculer le résultat partiel. Pourquoi la boucle est séquentielle? Parce que l'ATPL a déjà dispatché cette boucle sur le processeur. Et donc on est en train de travailler sur un seul processeur. En fin d'itération, on va calculer en fait et agréger tous les résultats partiels en une seule variable si x. De la même manière, on peut arrêter aussi et sortir d'une boucle. Ici, vous avez un petit exemple très simple où j'ai ma méthode for qui va prendre en tant qu'option ici un jeton d'arrêt parce que ce jeton d'arrêt va me servir à sortir de la boucle lorsque une demande d'arrêt sera effective. Et pour pouvoir sortir de la boucle, je vais utiliser donc une des méthodes surchargées de la méthode for, qui permet de prendre entre autres un état ici de la boucle. Et je dis tout simplement, je veux sortir de la boucle soit avec la méthode break, et qui va l'arrêter donc juste après l'itération courante, ou soit de l'arrêter tout de suite ou quand la TPL sera prête. Alors maintenant vient le moment où il faut paralléliser dans une boucle l'accès à une collection d'objets. Alors, on a vu dans les vidéos précédentes que sur .NET, dans .NET, on avait des collections d'objets, mais qui, elles, ne sont pas à utiliser dans un algorithme parallèle parce qu'elles sont dites non thread safe. C'est-à-dire que quand j'ajoute ici un client à ma collection, bah, je ne sais pas si ça ne va pas planter, puisque justement, je n'ai aucune barrière, aucun verrou qui permette de me protéger ma liste. À la place de ça, on va utiliser par exemple une collection bloquante avec l'objet Blocking Collections qui va me permettre, lorsque je vais ajouter, de garantir que ce client sera correctement ajouté. Ensuite, on a d'autres méthodes pour pouvoir rechercher dans une collection d'objets une information. On a LinkQ. Et puis, depuis la TPL 4.0, on a son pendant Parallel Link. Le Parallel Link, c'est tout simplement des méthodes d'extension qui viennent enrichir les collections de base du framework .NET. Ici, vous voyez, j'ai une expression LinkQ qui ressemble peu ou prou à du SQL, où je vais rechercher avec un certain nombre de critères en fait des clients dans une collection. Ben ici, je vais avoir le même exécution de ma requête, sauf qu'elle sera automatiquement en parallèle. Alors, en fonction du volume de données qu'on a dans cette liste de clients, la version séquentielle sera moins rapide que la version parallèle. Encore une fois, il faut travailler sur un volume de données important pour que la version séquentielle soit moins rapide. Si vous travaillez sur un volume de données peu important, comme on va le voir dans la démonstration qui suit, on s'apercevra que la version séquentielle est plus rapide. Donc développer en parallèle, c'est non seulement penser en parallèle, mais c'est aussi travailler avec un quota de données qui dépasse une certaine limite. Sinon, ça sert strictement à rien. Alors, pour illustrer notre collection d'objets, ce qu'on va faire, c'est créer des clients, 10 000 par exemple. Et ces clients, on va les alimenter à l'aide d'une méthode qui va créer les clients, on va dire 10 000. Donc c'est une liste toute bête, voilà. Et pour que ça soit visuel, on va faire bouger un petit alien. Ces clients possèdent en fait des propriétés, nom, prénom, âge, qu'on alimente de façon aléatoire. Ensuite, je vais créer donc une méthode séquentielle qui me sert donc d'étalon. Cette méthode séquentielle, elle va alimenter une sous-liste dans une boucle séquentielle. Cette sous-liste, je vais l'alimenter avec les clients qui correspondent aux critères d'âge entre 65 et 70 ans. Je retourne le compte de ma sous-liste. Je vais faire la même chose mais en parallèle. Donc, en faisant cette fois-ci en utilisant une blocking collections, donc qui me permettra dans ma méthode parallèle for each de éviter que j'ai un problème lorsqu'ajoute un client dans ma collection, puisqu'elle est dite thread safe. Donc voilà. Ensuite, pour comparer, je vais également exécuter une méthode linQueue. Donc cette méthode linQueue, c'est la suivante. C'est comme une méthode SQL. C'est from c in client, qui est ma liste de clients, where l'âge est compris entre 65 et 70. La différence de ma boucle for each, c'est que je peux automatiquement également ordonner par le nom. Et je retourne le nombre de clients dans ma sous-liste. Et puis je vais faire la même chose avec une fonctionnalité qui apparaît avec la TPL, qui est parallèle linQueue, et qui est aussi simple que ça à mettre en œuvre, c'est-à-dire qu'on va utiliser toujours la liste client, mais sur cette liste client, je vais avoir une méthode d'extension qui s'appelle asParallèle, qui va automatiquement paralléliser mon algorithme. Et de la même manière, je vais pouvoir donc retrouver un critère entre 65 et 70 ans, et je vais ordonner par nom. Une petite étiquette, voilà qui est fait. Ensuite, si on exécute ce code, ça va aller très très vite. On s'aperçoit que les 10 000 clients ont été créés en 11 millisecondes, et que 526 répondent aux critères, et que ça m'a mis une milliseconde pour la version séquentielle parallèle de ma forEach et linQueue, une milliseconde. Par contre, on voit que PLink, lui, a mis 8 millisecondes. En effet, il y a besoin de charger en mémoire un certain nombre de ressources propres à PLink, et du coup, ça met un petit peu plus de temps. De la même manière, on voit que mon algorithme parallèle n'est pas beaucoup plus parallèle. Bon, pour aller en deçà de 1 milliseconde, c'est quand même assez compliqué. Donc, encore une fois, ce qu'il faut faire, c'est s'assurer que le volume de données à traiter sera plus important. En effet, si cette fois-ci, je ne mets pas 10 000, mais je mets 10 millions, 10 millions de clients, je réexécute mon bout de code. Là, ça va mettre un petit peu plus de temps à être créé, mais une fois que ça va être créé, on va voir la différence de performance entre les différents algorithmes. Voilà qui est fait. Et bien là, c'est sans appel. On voit que sur 10 millions de clients, j'en ai 483 802 qui répondent à mon critère. Mais on voit bien que la version séquentielle met 566 secondes, millisecondes. La version parallèle met, elle, 120 millisecondes, ce qui est quand même énorme en termes de différence. La version linQueue, elle, met 2 secondes, donc c'est énorme, mais faut pas oublier que j'ordonne par le nom, donc c'est un coût supplémentaire hein, en termes de performance. Mais alors là, on voit que la version PLink écrase tout sur son passage, et donc elle est à 108 millisecondes en ayant aussi ordonné par nom. Donc on voit, hein, autant que faire se peut, si on peut utiliser la version PLink sur un volume de données important, faut pas hésiter à le faire. Alors depuis le début de ces vidéos consacrées au développement parallèle, je n'ai pas arrêté de vous dire qu'il fallait penser parallèle. Eh bien, c'est ce qu'on va essayer d'aborder très rapidement dans une prochaine vidéo. On va voir un certain nombre d'abstractions et de modèles qui vont nous aider à penser parallèle.